Vous êtes sur RTL.
RTL Soir avec vous, Thomas Soto, bonsoir.
Bonsoir Myriam, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Après Pâques, c'est à nous d'être sous cloche. Dans une heure, à 19h, la tolérance au week-end sera terminée et les policiers vont devenir bien plus stricts avec ceux qui ne respecteront pas les règles du presque confinement applicable désormais à tout le pays. Il faut dire que l'épidémie galope avec près de 67 000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. On en parlera d'ailleurs avec la professeure Karine Lacombe. Elle sera l'invitée d'RTL Soir à 18h15. À 18h35, changement d'ambiance et de rythme, puisque l'étonnant Little Bob, infatigable rocker, sera lui aussi avec nous. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres de l'actualité de ce lundi 5 avril.
Et à la une ce soir, les visages de Bernard et Dominique Tapie tuméfiés. Le cauchemar du couple a duré plus de 45 minutes dans la nuit de samedi à dimanche. Ce soir, les quatre malfaiteurs qui les ont roués coups sont toujours en fuite. Dans ce journal également, ces applications pour trouver un rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid, elles se multiplient. On vous explique comment ça marche. Et puis les magasins de jouets, eux, ont vu leur vente exploser ces derniers jours avant la fermeture, plus 50%.
Alors, ça pourrait être les magasins de couverture, mon cher Louis Baudin,
oui,
bonsoir.
C'est vrai, bonsoir
Parce
Thomas.
Que dis donc, qu'est-ce que ça caille?
Ah ben oui, c'est l'hiver qui revient, hein, on peut le dire comme ça, avec l'air froid qui s'engouffre là sur la France. D'ailleurs, de plus en plus froid, puisque demain matin, les gelées seront quasi généralisées, sauf en bord de mer. Tout ça avec effectivement un ciel quand même un peu plus dégagé qu'aujourd'hui dans la moitié nord. Mais ça n'empêchera pas quelques passages nuageux. Et sous ces passages nuageux, des averses forment de neige, oui, jusqu'en pleine dans une large moitié est. Ça tiendra pas forcément. Mais on va voir voltiger quelques flocons dans beaucoup de régions. On aura du soleil dans l'extrême sud, mais avec du mistral de la tramontane près de la Méditerranée. Et après ces gelées quasi généralisées le matin, l'après-midi, écoutez bien, on sera entre 6 et 8 degrés seulement dans la moitié nord des températures de février. 10 à 15 degrés dans la moitié sud, où là aussi ça va dégringoler.
Merci Louis, on se couvre.
RTL Soir.
Alors Louis nous le disait à l'instant, revoilà l'hiver, température négative sur une bonne partie de la France dès demain matin et ça va sans doute durer plusieurs jours et c'est un cauchemar pour tous les arboriculteurs et viticulteurs. Ils ont passé leur journée à protéger leur culture. Illustration dans le Mâconnais avec Bertrand Frachon.
Jean-François Signoret exploite 4,5 hectares en blanc d'appellation Viré-Clessé. Depuis ce matin, il scrute avec appréhension les bulletins météo. Le coup de gel annoncé l'inquiète beaucoup car il risque d'être sévère.
Bien, la vigne, elle va réagir mal parce qu'en fait, c'est quand même très froid. Hein. Moins 1, moins 2, ce serait pas trop dangereux. Mais là, moins 4, moins 6, c'est fort. Quoi. La vigne a débourré, c'est-à-dire qu'on voit les petites feuilles. Quoi, hein, et c'est le moment le plus critique quoi, pour elle.
Alors pour tenter de sauver une partie de sa récolte, Jean-François a sorti des bougies pour réchauffer la vigne.
Alors les bougies, donc, ce sont des bougies de paraffine. On les dispose tous les 5 à 6 mètres sur le rang en quinconce. On peut en mettre de 350 à 450, 500 hectares. Ça fait du travail, hein, il faut les positionner. Elles ont été positionnées et demain matin, vers 4h30-5h, on va se tenir prêt avec des petits chalumeaux pour éclairer nos bougies.
Mais les bougies ne seront peut-être pas suffisantes face au gel sévère. Le viticulteur qui n'est pas assuré ne peut de toute façon compter que sur elle.
Un reportage signé Bertrand Frachon près de Mâcon pour RTL.
Qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, malheureusement le Covid est là et attention, fin de la tolérance pour les déplacements à partir de 19h hein, tout à l'heure et ce sur tout le territoire.
Et on va essayer de faire le point avec vous Anne Lehenaf, bonsoir.
Bonsoir.
Petite piqûre de rappel, qu'a-t-on le droit de faire et de ne pas faire?
Alors
surtout,
vous pouvez vous promener dans un rayon de 10 km autour de votre domicile jusqu'à 19h avec un justificatif, hein, c'est mieux, hein, une facture EDF ou un contrat de location si vous avez choisi l'exil pour le prochain mois. Vous pouvez aller faire des courses dans votre département, vous pouvez sortir votre chien après 19h jusqu'à 6h du matin dans un rayon d'un kilomètre. Dans tous les autres cas, il vous faut une attestation de déplacement pour motif impérieux. Le formulaire est sur le site du ministère de l'Intérieur. Ça peut être un rendez-vous chez le médecin par exemple, pour aller travailler ou pour régler un problème de garde d'enfant. Là, c'est toujours la même chose. Les policiers vont chercher à vérifier que vous êtes de bonne foi. Donc prenez tous les documents qui pourront vous aider à prouver que vous ne cherchez pas à tricher. Un livret de famille par exemple, une facture de déménagement, sinon ce sera une amende de 135 €. Et puis je vous rappelle que les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits dehors, ainsi que la vente d'alcool sur la voie publique. La consommation d'alcool dans les rues ou sur les plages, elle, peut l'être interdite par les préfets.
Anne Lehenaf du service police-justice de RTL, merci à vous. Et on se demandait si beaucoup de Parisiens, tiens, notamment, avaient profité de la tolérance
vacances de ce week-end pour partir en week-end.
Bah oui, ça roule
revenir.
Ou ça roule pas?
Ça roule super bien ce soir, à peine 20 km de bouchons en Ile-de-France. Je pense que c'est du jamais vu pour un retour de week-end de Pâques. Du côté de la vaccination, Olivier Véran a réaffirmé aujourd'hui les objectifs du gouvernement. 10 millions de vaccinés mi-avril, 20 à la mi-mai. Le Stade de France accueillera demain ses premiers patients. Et pour tous ceux qui auraient toujours du mal à trouver des rendez-vous en Ile-de-France ou ailleurs, de nouvelles applications existent. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir Amandine, bonsoir à tous.
De quoi s'agit-il ?
Alors, l'une d'elles s'appelle Covid List. Elles permettent de s'inscrire sur les listes d'attente des centres de vaccination au cas où des personnes se désistent ou quand il y a encore des doses le soir. Eh bien, les centres appellent des volontaires. Alors, ils ont pour l'instant chacun leur liste d'attente sur papier. Il faut aller sur place pour s'inscrire. Là, vous le faites sur Internet. Alors, attention, il faut être éligible. Les centres vont rappeler en priorité les personnes de plus de 70 ans ou qui sont à très haut risque. Vous pouvez toujours vous inscrire, mais si vous n'êtes pas éligible, vous aurez très peu de chances d'être contacté. Et puis il y a une deuxième application, Vite ma dose, qui permet elle de trouver autour de vous, en mettant votre adresse, les nouveaux rendez-vous disponibles. Guillaume Rosier a créé cet outil très pratique, il est au micro de Morad Jabari.
Une fois que l'utilisateur a choisi son département, Vite ma dose va automatiquement détecter les prochains rendez-vous disponibles et il va donc proposer ces rendez-vous à l'utilisateur qui ensuite va pouvoir réserver donc ses rendez-vous de vaccination directement sur Doctolib.
Alors, on rappelle donc ces deux outils sur Internet, Covid List et Vite ma dose.
Merci à vous, Virginie Garin, pour ces explications. Vite ma dose, au moins, ça le mérite d'être clair. 36 heures après la violente agression dont ont été victimes Bernard Tapie et son épouse, le parquet de Paris annonce avoir repris l'enquête. Bonsoir, Guillaume Chiez.
Bonsoir.
C'est vous qui suivez ce dossier pour RTL. Les quatre malfaiteurs sont ce soir toujours en fuite.
Vous voyez, pour le moment, aucun témoin n'a livré d'informations au capital concernant la fuite de ces cambrioleurs. Pas de direction, ni même de modèle de voitures utilisées. En revanche, les enquêteurs ont entre leurs mains une paire de gants oubliés sur place, un objet clé pour tenter d'identifier un membre de ce groupe. Ils sont également à la recherche de la moindre empreinte de trace ADN. Les époux Tapie n'ont pu donner qu'une description succincte des malfaiteurs. Ils étaient cagoulés, ce qui ne va pas faciliter leur identification. Enfin, la PJ surveille déjà le marché noir au cas où les cambrioleurs tenteraient de revendre les deux montres ou les bijoux volés.
Guillaume, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette agression était extrêmement violente. Les enfants de Bernard et Dominique Tapie ont d'ailleurs diffusé des photos de leurs parents et elles sont spectaculaires, ces photos.
Oui, un cauchemar de près de trois quarts d'heure qu'ont vécu les époux Tapie. Laurent Tapie, un de leurs enfants, témoignait ce matin chez nos confrères de CNews.
Ils ont d'abord assommé mon père et ils l'ont attaché. Et ensuite, ils sont occupés de molester ma mère et de l'emmener dans toutes les pièces parce que c'est à elle qu'ils exigeaient de savoir où étaient l'argent, les bijoux, le coffre, surtout qu'il n'y en avait pas. Donc ça a mis beaucoup de temps à ce qu'ils comprennent qu'il n'y avait pas de coffre, donc ça ne servait à rien d'insister. Et donc voilà, elle est ressortie encore plus choquée que mon père, je pense.
Au final, Bernard Tapie a refusé d'être hospitalisé. Dominique, elle, a fait un aller-retour express aux urgences. Hier, le couple a quitté sa résidence secondaire de Comble-la-Ville pour rentrer à Paris.
Guillaume Chiez, du service police-justice de RTL à Béziers. Les gardes à vue des cinq femmes interpellées hier et soupçonnées d'avoir voulu commettre un attentat ont été prolongées. Quatre d'entre elles, d'ailleurs, ont été transférées dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure à Levallois-Perret, tout près de Paris. Lors des perquisitions menées hier, les enquêteurs ont notamment retrouvé des bouteilles plastiques scotchées entre elles et contenant des billes d'acier.
Petite pause et dans un instant, tout à fait autre chose. On va aller aux États-Unis et on a rendez-vous avec Britney Spears. Britney Spears comme vous ne l'avez jamais vue.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal Amandine Bégaud. Et voici donc un documentaire qui fait beaucoup de bruit et pas seulement le bruit des notes aux États-Unis.
Un documentaire sur Britney Spears. Vous vous souvenez, la chanteuse?
Ah bah
il est disponible depuis aujourd'hui.
Non. Tant mieux.
Disponible donc depuis aujourd'hui, ce documentaire en France sur Amazon Prime. L'histoire d'une descente aux enfers à peine croyable, Lionel Gendron.
Oui, une icône des années 2000, broyée par son succès, les médias et ses proches, une descente aux enfers symbolisée par une image en 2007. Sous les flashs de dizaines de paparazzi, la chanteuse se fait raser le crâne en pleine nuit. Burnout, séjour en maison de repos, cure de désintoxication. Depuis 2008, ses affaires et sa fortune sont gérées par son père. À la fin du mois, un tribunal doit décider de casser ou non cette tutelle, un combat soutenu par ses fans.
Ta situation m'inquiète. J'arrive pas à croire que ça dure depuis si longtemps. longtemps. Pourquoi ça continue? Pourquoi son père décide pour elle?
Le documentaire produit par le New York Times pose aussi cette question.
J'ai toujours été convaincue que ça ne serait jamais arrivé à un homme ici en Amérique.
Aux États-Unis, Justin Timberlake s'est d'ailleurs excusé auprès de son ancienne compagne. Il est en effet accusé d'avoir boosté sa carrière grâce à un morceau évoquant une infidélité de Britney Spears. Quant à la principale concernée, elle n'est pas dans le documentaire, elle n'aurait pas donné suite aux sollicitations. Sur son compte Instagram, elle se dit gênée par cette mise en lumière.
Lionel Gendron, le correspondant d'RTL aux États-Unis, puis toujours à l'étranger, à la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a signé aujourd'hui la loi qui va lui permettre de se présenter pour deux nouveaux mandats présidentiels.
Il ne se lasse pas.
Et oui, ça ouvre la voie à son maintien au Kremlin jusqu'en 2036. Alors, le texte avait été voté au Parlement au mois de mars dernier, quand même.
Bon, la bonne nouvelle. Enfin, point, la bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Elle concerne les ventes de jouets. Elles ont explosé ces derniers jours avant l'entrée en vigueur des nouvelles restrictions. Les magasins de jouets, vous le savez, sont fermés. Plus 50% entre jeudi et samedi soir, Éric Vanier.
Oui, la fin de la semaine dernière a ressemblé dans les magasins de jouets au jour qui précède Noël. Compte à rebours, course contre la montre. Les parents se sont précipités dans la hantise de ne pas avoir assez pour occuper leurs enfants au cours des semaines à venir. Franck Mattet représente la chaîne Jouet Club.
C'est un record parce que les Français ont voulu s'équiper avant la fermeture totale des magasins. Avec la fermeture des écoles, avec les vacances scolaires, le télétravail, eh bien, il faut pouvoir occuper ses enfants. Et donc, avec le beau temps, on a une forte progression des ventes sur les jeux de plein air, de toboggans, de maisons de jardin, de trottinettes, patinettes. On a juste derrière les jeux de société pour pouvoir passer du temps en famille autour d'un jeu. Et puis la dernière catégorie dans notre podium de tête, ce sont les loisirs créatifs. Et c'est ce qui explique cette hausse de 50% des ventes par rapport à la semaine précédente.
Pour les professionnels du secteur, cette ruée prouve qu'on ne peut pas fermer les écoles sans laisser ouverts les magasins de jouets. Et que donc les jouets doivent être considérés comme des produits essentiels, accessibles en rayon, même en période de confinement.
Éric Vanier du service économie de RTL. Et on attend vos bons plans, hein, si vous savez comment occuper les enfants. On rappelle l'école à la maison, ça commence demain.
C'est le moment où la maman prend le dessus sur la présentatrice du journal de 18h. Bon courage, Amandine, bon courage. À la demande de Vladimir Poutine et de Louis Baudin, quand même quelques notes de Baby One More Time.
Vous deviez chanter.
Mais j'adore, je danse à l'intérieur, je vis. J'ai l'impression que cette chanson a été écrite pour moi. Vous me verriez en pieux nu. One More Time avec elle, elle est devenue familière depuis un an, elle est infectiologue, c'est la professeure Karine Lacombe qui est l'invitée d'RTL Soir tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Elle est infectiologue et chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. La professeure Karine Lacombe est l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Karine Lacombe.
Bonsoir.
Nous sommes le 5 avril, il fait moche, hein, je parle sous le contrôle de Louis Baudin. Le nombre de cas explose, les réas sont surchargés. Est-ce que vous arrivez à imaginer sérieusement que dans un peu plus d'un mois, mi-mai, tout ira vraiment mieux et qu'on sirotera une orangeade sur une terrasse en sortant d'un théâtre?
Alors je pense que mi-mai, c'est excessivement tôt. Alors est-ce que ça va aller mieux? J'espère. On sera quand même à 4 semaines avec des mesures de freinage et on l'espère tous porteront leurs fruits. En revanche, qu'on soit sur une terrasse en train de siroter un spritz, ça va être difficile.
Oui. Ça veut dire que la perspective ouverte par le chef de l'État vous paraît trop optimiste aujourd'hui ?
Je pense que la perspective a peut-être été mal interprétée. C'est-à-dire que peut-être qu'à partir de mai, on va commencer à lever les mesures et petit à petit tendre vers une vie plus normale. Mais de là à ce que tout soit ouvert et qu'il n'y ait plus aucune mesure de freinage... Je pense que ça, c'est excessif.
Mmh. Tout le pays, Karine Lacombe, est désormais soumis au freiner sans enfermer, qui est la version 3 d'un confinement qui ne s'assume pas tellement. Est-ce que vous croyez dans l'efficacité de ces mesures-là, vous ?
Oui, on l'a même appelé ex-finement.
Ex-finement, ah, c'est pas mal aussi, ex-finement.
Alors, est-ce que je crois à ces mesures de freinage ?
C'est presque une vision éditoriale des choses de l'appeler ex-finement.
Voilà, oui, tout à fait. Oui. Je pense que le fait que l'on ait tiré parti de la proximité des vacances, que l'on ait bouleversé le calendrier scolaire pour faire une espèce de compromis entre l'arrêt de la scolarisation des enfants, dont on sait que c'est un élément absolument fondamental du bien-être des plus jeunes, et la nécessité d'avoir des mesures de freinage, probablement que le compromis qui a été trouvé est le bon.
Oui.
Et Ensuite, ça va être vraiment de la responsabilité de chacun. Il y a une responsabilité collective, mais également individuelle, pour faire en sorte que ces mesures de freinage aient des,
clair,
un
si
impact
joue,
important.
Si on ne joue pas tous chacun le jeu, exactement, en arrêtant de recevoir des gens, en arrêtant de voir des gens, ça ne marchera pas?
Non, ça ne marchera pas, bien sûr, parce que actuellement, les foyers les plus importants de contamination, ce sont les rassemblements qui ne sont pas autorisés, et les infections qui viennent des enfants qui étaient scolarisés. Donc si on agit sur une des composantes, mais pas sur l'autre, non, ça ne freinera pas. Ce d'autant qu'on est à des niveaux actuellement extrêmement élevés de transmission.
Incroyable, j'ai vu les chiffres, les derniers chiffres sur l'application Tous Anti-Covid, c'est 66 794 contaminations en 24 heures.
Ils disent énorme,
quoi, ils disent quoi ces
imaginez.
Chiffres Avant, on était à 10 000, on disait que c'était trop, on était à 20 000, on disait ça. Mais là, 66 000, je ne sais pas, mais je n'ai pas souvenir qu'on était déjà été aussi haut aussi.
Et on est dans, non, parce qu'en fait, probablement que lors de la première vague, on avait des taux aussi élevés, mais on ne testait pas. Donc maintenant, on teste, on a des taux extrêmement élevés, qu'on voit bien qu'on n'est pas encore dans une dynamique de freinage, hein, on est dans une augmentation exponentielle du nombre de cas. Mais en même temps, c'est normal, ce n'est pas au bout de 2-3 jours de la mise en place de ces mesures qu'on va avoir un impact.
Ça va mettre combien de temps à ralentir un petit peu?
Il y a
si
tout bien 15 jours, au moins 15 jours. Donc, dans 15 jours, on devrait voir l'évolution du marqueur le plus précoce de l'épidémie, c'est-à-dire le nombre d'infections. Et puis ensuite, un peu plus tard, la diminution des admissions en médecine, puis en réanimation, et puis encore un peu plus tard, du nombre de décès.
Premier signe dans 15 jours. Vous parliez des enfants qui sont très contaminants il y a quelques instants. La rentrée scolaire dans 3 semaines, avec ces chiffres-là, ça vous paraît envisageable? Vous y croyez ou pas?
Là aussi, je pense que si on a un signal qui est positif, il va falloir effectivement rouvrir les écoles, parce que c'est vraiment un compromis.
Mais déjà,
vous savez qu'on fait. J'espère. Alors, dans 3 semaines, ce sera plutôt dans 4 semaines. On va voir, hein, j'espère. Ça va complètement dépendre de l'impact qu'on va avoir sur la dynamique de l'épidémie.
Si on regarde un tout petit peu plus loin, Karine Lacombe, le commissaire européen en charge des vaccins, Thierry Breton, a parlé d'une immunité collective européenne à horizon du 14 juillet. Déjà, ça veut dire quoi, une immunité collective européenne? C'est quoi ce terme?
Alors, ça, c'est très étonnant comme terme, parce qu'en fait, en relisant exactement le discours de Thierry Breton, on n'y trouve pas de chiffres.
Oui.
Et c'est vrai que les experts ne sont pas tout à fait d'accord sur le chiffre l'immunité collective. Est-ce que c'est 60% de personnes qui ont été vaccinées ou qui ont été malades et développé des anticorps?
C'est-à-dire 60% de la population qui serait, pour qu'on comprenne bien, qui serait protégée contre le vaccin, c'est ça?
Alors qui serait protégée contre le virus ou par une immunité naturelle après avoir guéri de la maladie. Donc déjà, on voit que c'est quelque chose d'approximatif. Je pense que ce que Thierry Breton a voulu dire, c'est qu'à mi-juillet, on aurait une quantité tellement importante de vaccins que quasi chaque citoyen pourrait avoir accès à la vaccination.
Là encore, c'est un horizon précis, la mi-juillet, il y a eu la mi-mai, la mi-juillet, c'est quelque chose qui vous paraît raisonnable, envisageable, ou vous dites aujourd'hui, arrêtons de fixer des dates ou de fixer des objectifs, on ne sait pas?
Je pense que pour l'instant, il y a trop d'inconnus dans l'équation. C'est vrai que donner des dates, c'est aussi donner de l'espoir, et c'est plus facile d'appliquer soi-même des mesures quand on a un horizon pour voir l'impact de ces mesures.
Oui, si à chaque fois qu'on approche de l'horizon, on se prend un coup de pelle, c'est compliqué.
Ben oui, c'est vrai. Je pense que c'est que les personnes qui donnent comme ça un horizon très fixe prennent le risque que cet engagement ne soit pas tenu et qu'il y ait un retour de bâton. En même temps, je pense que dire que d'ici l'été, ça laisse quand même un laps de temps un peu long, on va pouvoir lever les mesures et retourner petit à petit vers une vie plus normale, c'est assez raisonnable.
Mais vous, à propos d'immunité, vous êtes infectiologue, je le rappelle, c'est quel pourcentage d'une population pour avoir une immunité, c'est-à-dire pour que le virus ne circule plus?
Mais en fait, ça dépend complètement de l'émergence des variants. Par exemple, le variant anglais, on sait que la vaccination permet de prévenir les infections par ce variant anglais. En revanche, pour le variant sud-africain ou brésilien, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça va complètement dépendre de quel va être le variant le plus prédominant. On pense que c'est le variant anglais parce qu'il semblerait se répliquer plus facilement que les autres variants. Donc l'immunité collective, probablement quelque chose entre 60 et 80%. Mais ça fait quand même une marge importante.
Hein. Comme vous le dites, c'est une équation qui a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup de stress, Karine Lacombe, autour du vaccin AstraZeneca. Est-ce qu'il est justifié, ce stress? Est-ce que vous le comprenez?
Alors, on comprend, bien sûr. Mais en même temps, ce vaccin, comme n'importe quel autre médicament, a des effets secondaires que l'on commence à découvrir parce qu'on l'a utilisé chez des millions et des millions et des millions de personnes. Ce sont des effets secondaires qui sont extrêmement graves, extrêmement rares et extrêmement graves. Heureusement, un tout petit nombre de ces effets secondaires. Et ensuite, il faut vraiment peser la balance entre le bénéfice et le risque.
Mais vous, est-ce qu'il vous inquiète ?
Actuellement, le bénéfice est bien supérieur au risque.
Est-ce qu'il vous inquiète, ce vaccin ?
Alors, moi, personnellement, le vaccin ne m'inquiète pas. Si j'avais, quand j'étais vaccinée au début du mois de janvier, si ça avait été le vaccin AstraZeneca qui avait été disponible, j'aurais été vaccinée avec AstraZeneca. Et je pense que dans les conditions qui ont été proposées par l'Agence nationale de sécurité du médicament, AstraZeneca garde toute sa sécurité d'emploi et son efficacité.
Vous le conseilleriez à vos proches ?
Tout à fait, et ouais. Je le fais, et je le conseille chez toute personne qui a plus de 65 ans, bien sûr, peut être vaccinée par l'AstraZeneca.
Alors dans la multitude d'armes que nous avons pour essayer de lutter contre cette épidémie, il y a les autotests qui vont arriver le 12 avril, autrement dit la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Qu'est-ce qu'il faut en espérer de ces autotests ? L'autotest, c'est on se fait son test soi-même.
Exactement, donc en fait c'est un test antigénique, c'est un test rapide d'orientation diagnostique. Donc les tests antigéniques qui pouvaient être faits auparavant chez le pharmacien ou chez son médecin généraliste, eh bien, on peut le faire soi-même. Donc cet autotest est intéressant parce que ça apporte une arme supplémentaire dans toute la panoplie du diagnostic de la Covid-19. Mais il y a des conditions d'utilisation qui sont très particulières et qui fait que pour l'instant, cet autotest ne peut être vendu qu'en pharmacie. Parce qu'il faut le conseil du pharmacien pour bien savoir l'utiliser et l'interpréter.
Ça, il y a un petit sujet de débat là-dessus parce que ça devait être à l'origine dans les supermarchés. Et puis là, finalement, on apprend que c'est que les pharmaciens. C'est pas regrettable quand même quand on veut que les Français se testent le plus possible. C'est pas un peu on se demande si d'un coup c'est pas le lobby des pharmaciens ou des professions médicales qui a pris le dessus sur le lobby des supermarchés.
Non, vraiment il faut pas voir de complotisme là-dessous.
C'est pas du complotisme, hein, c'est du business.
Oui, mais je peux bien en parler parce que je fais partie de la commission de la Haute Autorité de Santé qui a évalué ces tests. Et la raison pour laquelle on a décidé que dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, ces autotests seraient disponibles uniquement en pharmacie, c'est parce qu'on a bien vu que l'utilisation, le fait de faire cet autotest et de l'interpréter était très compliqué. Et en plus, c'est un test qui n'a pas tout à fait la fiabilité d'un test PCR, par exemple.
C'est un test qu'il faut vérifier derrière.
Exact. Donc, s'il est positif, il faut vérifier derrière. Et s'il est négatif, ça ne veut pas forcément dire que l'on n'est pas infecté. Ouais. Donc, il faut savoir l'interpréter.
Pardon, mais s'il n'est pas fiable positif et pas fiable négatif, il sert à quoi l'autotest ?
Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se présente. C'est-à-dire que si le test est mal fait, et c'est souvent le cas avec les autotests quand leur utilisation n'est pas bien expliquée, si le test est mal fait, on peut y apporter une fausse interprétation.
D'accord.
Et ça, il faut faire extrêmement attention.
Mais s'il est bien fait, il est quand même relativement fiable.
Quand il est bien fait, il est tout à fait fiable.
Est-ce qu'il faudrait en donner à tous les Français ? Je crois que c'est en Grande-Bretagne qu'ils vont donner 2 autotests par semaine aux habitants. Est-ce qu'il faudrait faire la même chose ici ?
Ah ben c'est vrai que ce serait un outil extrêmement important pour quand justement on va lever les mesures de confinement. Mesures de freinage, comme on veut les appeler. Oui, absolument, c'est un test qui est très intéressant, qui est beaucoup moins invasif que le nasopharyngé, puisqu'il est uniquement nasal, et ça va inciter les personnes qui avaient peur des prélèvements nasopharyngés à se faire tester, bien sûr.
Est-ce qu'après la troisième vague viendra la quatrième vague, puis la cinquième vague ? Est-ce que vous avez un sentiment, une conviction scientifique là-dessus, un doute ?
Alors, de toute façon, on a maintenant la quasi-certitude que le virus ne va pas disparaître, à moins qu'il mute et qu'il devienne tellement peu infectant, peu contaminant qu'il disparaisse. A priori, il va rester, on va être protégé. Et ensuite, s'il y a une transmission, mais qui se fait à bas bruit, sans morbi-mortalité importante, ça va rentrer dans le magma des virus saisonniers ou autres, et on ne posera plus de problèmes, en tout cas plus de problèmes de santé publique.
Je vais pas vous demander si on vivra normalement cet automne, mais quand même, est-ce qu'on vivra normalement cet automne ?
Écoutez, je l'espère, tout comme vous.
Ouais. Vous n'avez jamais marre, vous, Karine Lacombe ?
Ah oh ben si, comme tout le monde.
Si,
j'en ai marre d'avoir à reconfigurer l'hôpital à chaque fois qu'on a le virus qui réapparaît. J'en ai marre d'avoir à faire des gardes la nuit, le week-end. J'en ai marre d'avoir à expliquer aux familles que ça se passe mal pour leurs parents, si, bien sûr.
L'hôpital, il tient.
On espère y arriver à bout. L'hôpital tient, c'est compliqué, c'est vraiment extrêmement compliqué, les équipes sont épuisées. Et on a du mal à voir un autre horizon. On est constamment en train de mobiliser tout le monde et de porter un peu l'hôpital à bout de bras, oui.
Et les médecins, vos confrères, vous avez l'impression parfois d'être pris pour cible par les politiques aujourd'hui ou pas? Parce qu'on a l'impression qu'il y a deux camps maintenant. Soit les médecins, soit les politiques et les gouvernants.
On a passé une période très difficile en janvier. En janvier-février. Voilà, maintenant, bon, ça c'est derrière nous. Je pense que c'est tous ensemble, de toute façon, qu'on va trouver une solution à la crise. Hein. On n'est pas.
Mais ça vous a marqué, ça vous a touché ou pas, les médecins?
Oui, ça nous a touché, oui. Oui, ça nous a collectivement touché. Ce qui nous a aussi touché, c'est le fait qu'on nous dise qu'il va encore falloir faire un effort, alors que depuis un an, on fait tous énormément d'efforts. Toute la communauté soignante, médecins, le personnel paramédical et tout le personnel de support administratif ont fait d'énormes efforts.
Merci beaucoup Karine Lacombe d'être venue dans RTL Soir. Merci à vous. À suivre, l'œil de Natacha Polony qui nous emmène dîner ce soir avec ou sans ministre, on le saura après la pub.
RTL Soir.
18h30, le rappel des titres, Amandine Bégaud.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Et attention, plus qu'une demi-heure hein, avant la fin de la tolérance appliquée ce week-end pour vos déplacements à partir de ce soir 19h. Il vous faudra une attestation pour circuler au-delà de 10 km et ce, dans toute la France. Une attestation et un justificatif de domicile. Des restrictions censées durer 4 semaines. Ce soir sur RTL, le professeur Karine Lacombe explique avoir du mal à imaginer une réouverture des terrasses pour la mi-mai, comme évoqué la semaine dernière par Emmanuel Macron. L'infectiologue table sur un premier ralentissement de l'épidémie d'ici 15 jours, pas avant. En attendant, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation continue de progresser, 5433 ce soir. Et puis l'autre grand titre de l'actualité, c'est le parquet de Paris qui reprend l'enquête ouverte après le violent cambriolage dont ont été victimes Bernard Tapie et son épouse ce week-end. Les quatre malfaiteurs qui les ont roués de coups sont ce soir toujours en fuite.
La météo, Louis Baudin, c'est l'hiver, on est bien, Noël approche. Hein.
Mais il y aura de la lumière, je pense que j'ai pas été assez précis. Ben oui, on parle du froid, on parle de la neige, mais il y aura quand même de très belles éclaircies demain dans la plupart des régions. Tout ça dans un courant nord, donc oui, il fera froid. Et d'ailleurs, avec ce ciel souvent étoilé, demain matin, les gelées seront marquées, importantes, quasi généralisées, sauf en bord de mer. Et puis en cours d'après-midi, toujours des éclaircies, mais quelques nuages donneront une averse. Et c'est à ce moment-là qu'on aura peut-être quelques flocons, ici ou là. Dans toute la moitié est, en tout cas, il y aura un risque tout au long de la journée, sauf dans l'extrême sud où là, le soleil s'imposera avec l'aide du Mistral et de la Tramontane près de la Méditerranée. Les températures donc fort gelées le matin et l'après-midi, 6 à 8 degrés, pas plus dans la moitié nord. Oui, il en manque, hein, pour être dans des valeurs de saison, il manque au moins 7 à 8 degrés.
Le compte n'est pas bon.
N'est pas bon du tout, et 10 à 15 degrés, pas plus dans la moitié sud.
Et vous nous direz tout à l'heure comment ça va se poursuivre tout ça. Nous sommes lundi, c'est l'œil de Natacha Polony, la directrice de Marianne. Bonsoir et bienvenue à vous, Natacha.
Bonsoir.
Alors, on est en plein psychodrame hein, après la diffusion d'un reportage en caméra cachée sur M6 vendredi soir. Reportage dans lequel on voyait un organisateur de soirée clandestine, soirée de luxe, qui expliquait avoir dîné ces derniers jours avec des ministres. Le procureur de Paris a ouvert une enquête. Moi, j'ai envie de savoir ce que vous pensiez de tout ça. C'est anecdotique pour vous, ça, ou pas?
Non, en fait, cette histoire, elle pose de très nombreux problèmes. Alors, le premier point, c'est que le spectacle de gens qui enfreignent les règles et qui peuvent le faire parce qu'ils sont en haut d'échelle sociale, ça nous est insupportable, et c'est normal. Non, c'est pas un ressentiment malsain. Mmh. Dans une période où des gens basculent dans la misère, le minimum pour ceux qui sont favorisés, c'est de montrer qu'ils se soumettent aux lois communes. Ce n'est pas la richesse qui est en cause. C'est l'égalité de droit. Et quand on entend Marlène Schiappa expliquer que si des ministres ou des députés ont participé à ce genre de soirée, ils doivent être sanctionnés ni plus ni moins que n'importe quel citoyen, en fait, on est un peu gêné, parce que non, ils ne sont pas des citoyens comme les autres. Ils exigent des citoyens des sacrifices dont le minimum, c'est qu'ils y consentent également.
Oui, mais attendez quand même, toute la question, c'est de savoir si effectivement des ministres ont participé ou pas à ces dîners. C'est pas prouvé du tout. Hein.
Oui, c'est le deuxième problème. M6 diffuse cette séquence dans laquelle un personnage, sous couvert d'anonymat, lance cette affirmation. Le personnage en question est immédiatement identifié. Il s'agit du collectionneur Pierre-Jean Chalençon, qui est habitué des affabulations, qui dément avoir dîné avec des ministres, qui plaide l'humour. Sauf que le mal est fait. En fait, il y a de nombreuses personnes qui resteront persuadées que des ministres ont bien participé à ce genre de dîner. Et de fait, comme les exemples se multiplient de magistrats, de hauts fonctionnaires, de journalistes même, qui sont pris en flagrant délit, ça passe.
Ouais, et pour l'instant, il a nié, il y a absolument aucune preuve, on le répète, que des ministres aient participé à ces fameux dîners. Cela dit, une enquête est ouverte, la justice avance.
Mais oui, mais sauf à ceci près que l'histoire, en fait, pose aussi un problème qui est purement journalistique. M6 a choisi de diffuser cette séquence qui porte une accusation grave. Alors, de deux choses l'une. Soit ils ont vérifié si réellement des ministres ont fréquenté des soirées de ce genre et ils diffusent la séquence en connaissance de cause, auquel cas il est légitime de dénoncer un comportement qui porte atteinte au pacte social, soit ils ont considéré que le propos était vraisemblable, étant donné les différents scandales de restaurants clandestins qui ont été révélés ces derniers temps, mais donc ils laissent un personnage anonyme porter des accusations sous prétexte que ça pourrait être vrai. Et là, c'est quand même un énorme problème de déontologie journalistique. Et quoi qu'il en soit, les conséquences, elles seront dramatiques. Parce qu'une fois de plus, c'est la confiance en les institutions qui est abîmée. Les citoyens se permettent de transgresser s'ils ont l'impression que ceux qui les dirigent auraient fait pareil. Et comme on dit, le poisson pourrit par la tête.
Voilà, on finit avec une image très pascale finalement. Merci beaucoup à vous, Natacha, directrice de Marianne, qu'on retrouvera lundi prochain. Demain, c'est Philippe Cavrivière qui sera avec nous. Il s'appelle Little Bob, son nom vous dit forcément quelque chose, son nom ou ses notes. Le rocker sort son 18e album, il est tout de suite l'invité d'RTL Soir. Préparez-vous à monter le son.
RTL Soir.
Thomas Soto.
RTL Soir.
Il est l'autre maire du Havre, comme le titrait Paris Match il y a quelques jours. Le chanteur Little Bob est l'invité d'RTL Soir. C'est qu'on a surtout envie de vous écouter, Little Bob. Bonsoir et bienvenue à vous.
Bonsoir.
On vient d'entendre et on écoute un extrait de votre album, nouvel album We Need Hope. On a besoin d'espoir, ça va bien avec l'époque, dis donc. Où est-ce que l'espoir manque le plus aujourd'hui, selon vous ?
Le fait tout, de partout.
De partout.
De partout. Enfin, pour nous, musiciens, l'espoir, c'est de pouvoir retourner sur scène, évidemment, et de jouer. Et puis, pour moi, c'est hyper important de pouvoir au moins répéter, tu vois. Parce que quand je fais une répétition, ça me remplit pendant presque une semaine. Mmh.
On va préciser que ce titre, vous l'avez composé et enregistré avant la pandémie, hein.
Juste avant le Covid, hein. Mais il y avait plein de raisons pour qu'on ait besoin d'espoir déjà à cette époque-là.
Vous avez toujours choisi, vous, de dire des choses dans vos chansons. C'est toujours des chansons qui racontent quelque chose.
Oui, c'est vrai. En tout cas, je raconte ma vie souvent.
Ouais. On va y venir dans celui-là en particulier parce que vous parlez de choses très très personnelles. Ce qui est sûr, vous ne reniez jamais le rocker que vous avez toujours été, un vrai, un pur. Ça veut dire quoi être rocker aujourd'hui, Little Bob ?
Pour moi, c'est être musicien, quoi. C'est tout. Aimer cette musique et puis essayer d'être assez droit, hein, de pas se faire bouger ou acheter par quoi que ce soit.
Par exemple ?
Par le business, par exemple. Ouais. Là, j'ai signé chez... j'ai produit mes albums depuis 1998 avec Blue Stories, juste après l'album Lost Territories qui était chez EMI. Et jusqu'à 2015, quoi, où j'ai sorti encore un album. Et puis l'avant-dernier, donc album est sorti chez Vericord.
Qui vous regarde en vidéo sur RTL.fr, c'est comme un interrupteur. Dès qu'on met de la musique, vous mettez à bouger, vous mettez à chanter.
J'ai plus que ça dans la vie.
Vous n'avez plus que ça dans la vie. Ouais. Parce que ce disque est aussi une grande déclaration d'amour à Mimi.
Eh oui, c'était ma douce, oui.
Parlez-nous de Mimi.
Ah, impossible de parler de Mimi. Il fallait la vivre. Moi, j'étais en fusion avec elle.
C'est votre femme, hein, Mimi.
Ma femme, 32 ans de vie commune. Elle s'est défendue pendant 7 ans du crabe.
Lutte contre un cancer, oui.
Voilà. Et en fait, il a gagné, en fin de compte. Et même pendant le crabe, elle était malade, elle s'était fait opérer. 2 mois après, elle était en studio avec nous. Pour d'abord parce que je dormais mieux quand elle était là.
Ouais.
C'est ce qu'elle se disait. Sinon, tu dors pas, tu vas pas bien chanter pour la voix, t'as besoin de dormir. Et puis, elle faisait les courses, elle nous faisait manger, notre musicien, dans un endroit où on enregistrait. Et puis, elle était mon tour manager en même temps, parce qu'elle voulait rester avec moi. Donc, elle conduisait des fois le minibus. Et puis, elle, par exemple, tous les papiers, tout ça, Internet, elle s'en occupait.
C'était 50% de Little Bob, en fait, Mimi.
Oui, alors que tout seul, je suis arrivé jusqu'à... Nous, on s'est connus en 86, fin 86. C'était le dernier album de Little Bob Story, à l'époque.
Oui.
Moi, j'avais déjà tourné, j'avais fait des tournées... plus de 350 concerts en 4 ans en Grande-Bretagne. Un peu partout, donc ouais. Ça ouvrait l'Europe. Parce que lorsqu'un groupe joue en Grande-Bretagne, ça, il peut tourner après en Finlande, en Hollande, en Allemagne et partout. Et dès qu'on est redevenu un groupe français, tout ça, c'est terminé.
Alors plusieurs chansons de cet album We Need Hope sont écrites, sont dédiées à Mimi. Il y a notamment ce magnifique You Can't Come Back, Tu ne peux pas revenir.
Baby, I'm sorry when I cry.
Qu'est-ce qui vous a donné la force de continuer après le départ de Mimi?
J'aime trop la musique. Et je pense qu'elle m'aurait reproché de là où elle est. Parce que je pense qu'elle est toujours avec moi. Vous savez, je suis du signe du taureau, je suis plutôt les pieds bien ancrés par terre.
Ouais.
Et je suis pas mystique, elle était mystique, elle. Et elle m'a fait passer un peu ça. Donc croire qu'elle est toujours là, non. Croire que... Je ne sais pas.
En tout cas, cette chanson, elle est vraiment sublime. You Can Come Back. With your tender
smile,
you make my life so easy. Mimi, elle vous a aimé comme vous étiez, Little Bob, alors que vous, plus jeune, vous ne vous aimiez pas trop. Pourquoi? Quel problème vous aviez avec vous-même?
Mais parce que, déjà, quand j'ai commencé avec mes premiers groupes amateurs, moi, à 16 ans, 17 ans, on me donnait 10 ans,
ouais.
Tu vois. Donc, quand t'as 16, 17 ans, que t'as envie de regarder les filles, et puis... Eh bien, quand t'as l'air d'avoir 10 ans, c'est difficile, quoi.
Ouais.
En tout cas, elle te regarde pas. Tu comptes pas. Et puis après, je me suis peut-être un peu laissé aller. J'ai toujours fait de la musique. Hein, avec mes
Ça
groupes.
Vous a jamais empêché de monter sur scène, par exemple, d'être un peu complexé physiquement?
Non, mais en tant qu'amateur, il n'y avait pas de problème.
Ouais.
Et c'est après, pour devenir professionnel, quand je regardais les autres et je me disais, mince, ils sont tous grands et beaux et costauds, et moi je suis un petit gros avec un gros ventre et des bretelles sur la chemise, les cheveux longs avec mes grosses binocles parce que je suis myope. Et puis après, l'envie a été trop forte, quoi. Je pouvais plus, sinon après... Après, tu te donnes des choses comme l'alcool et tout ça qui
Mais ça, quand on est sur scène, quand on joue sa musique, quand on joue son rock, on n'y pense plus à tout ça, si ?
Non, on n'y pense plus. Moi, dès que je montais sur scène, et puis en plus, on avait des fans tout de suite.
Oui.
Parce qu'on était comme des tueurs sur scène. Pour ça, mon premier amour en musique... pas mon premier, non. Quand j'ai commencé à faire la Little World Story, c'était un groupe comme le MC5 qui était très radical,
ouais.
et qui rentrait dedans comme ça, quoi. Des tueurs, quoi. Et donc on a fait ça, voilà. Mais donc je fermais les yeux, j'en avais plus rien à battre. Et je me dis, ils prennent ou ils prennent pas.
Et ils ont pris, et ça a plutôt bien marché. Vous le disiez, vous avez fait plus de 400 concerts en Grande-Bretagne. Mais vous n'avez jamais eu envie de traverser la Manche. Hein. Vous êtes toujours resté fidèle au Havre. Pourquoi?
Oh, j'ai failli aller vivre à Londres, où j'ai failli, après, quand j'étais enregistré aux États-Unis, avec le, à l'époque de Lost Territories et, ouais. et Rendezvous in Angel City, des albums qui étaient chez EMI, qui sont sortis en 92, 93. Et là, j'avais mes potes américains avec lesquels j'avais enregistré, mais il y avait des gens comme Steve Hunter, par exemple. Ouais. Ou J.J. Holliday, il me disait « Reste ici, on va te faire... » Kenny Margolis de Willie DeVille, il me disait « Reste ici, on va te faire un groupe autour et puis
et vous reveniez
on
à la
va
maison.
S'en sortir. »
Vous reveniez à la maison.
Non, je revenais à la maison d'abord ouais. parce que j'étais en couple et que je voulais pas que ma femme vive le problème d'aller vivre n'importe où comme ça. Et puis là, après tout, le Havre, c'est pas loin de Paris.
Ouais. Je parlais tout à l'heure de ce titre de Paris Match, parlant de vous, l'autre maire du Havre. Il est pas trop jaloux, Édouard Philippe, ça va ?
Non, je pense pas. Je crois que c'est un type intelligent.
Il paraît qu'il a une photo de vous dans son bureau, c'est vrai ça ?
Oui, j'avais vu ça dans un documentaire, je crois. Ouais. Mais je sais qu'il aime, la musique rock. Je crois qu'il aime Springsteen particulièrement. Il aime le blues. Après, je sais pas. Après, en étant... Oh putain, je veux pas faire de politique, mais...
Non, c'est pas de la politique, c'est de la musique. Allez-y.
Voilà. Mais en étant de droite profondément, comme il est, je comprends pas comment on peut aimer Springsteen ou Little Bob. Ou même le blues, parce que dans les paroles, dans les textes, on doit sentir comment on est.
Donc c'est quoi? C'est qu'il parle pas anglais ou c'est qu'il est pas vraiment de droite, à votre avis?
J'aimerais bien, moi, qu'il ne soit pas de droite, mais je ne sais même pas. Je veux dire, les élections, tout ça. Je parle de musique, parce que le reste...
Et alors, entre un dîner avec Édouard Philippe ou avec Georges Lang, d'ici RTL, vous choisissez qui?
Ah, je préfère Georges Lang.
Georges Lang, moi, je pense qu'il y sera.
Et on a fait des bonnes émissions ensemble.
Oh que oui, oh que oui, les auditeurs d'RTL le savent. Dans cet album, vous chantez aussi en italien et vous faites cette très belle reprise de Bella Ciao, qui est l'hymne des rebelles du monde entier.
The people passing, bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. So all the people passing, they say that was the flower of freedom.
Chantez en anglais, chantez un titre en italien, chantez jamais en français.
J'ai pas eu l'occasion.
Ouais.
J'ai pas eu l'occasion. Je veux dire, l'anglais swing bien. L'italien, je le fais swinger parce que je suis rital.
Ouais.
Hein, je suis italo à vrai, en fait. Bon, non, pourquoi? Puis il y en a assez des chanteurs français. Là.
Mmh. On vous aime beaucoup comme vous êtes. Merci beaucoup, Little Bob, d'être venu dans RTL Soir. Votre album, le 18e, sans compter les 5 lives, s'appelle We Need Hope. Et en vous écoutant, on en retrouve un peu d'espoir. On va juste réécouter quelques notes de You Can't Come Back parce que cette chanson est vraiment un joyau. Merci à vous. You can't come back. Et à suivre, ce sera la culture de la culture. Even I feel we are together forever. I know you can't come back. Baby, I'm sorry when I cry.
Thomas Soto, RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
18h52, la culture de l'actu, Julia Molcou, décollage imminent. Bonsoir Julia.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
La mère écologiste de Poitiers ne veut donc plus que les enfants rêvent de voler et du coup, elle a pris cet argument pour justifier sa volonté de supprimer une partie des subventions accordées à 3 aéroclubs du coin. Le rêve dans la culture, ça donne quoi Julia?
Amis, ne creusez pas vos chères rêveries. Ne fouillez pas le sol de vos plaines fleuries. Et quand s'offre à vos yeux un océan qui dort, nagez à la surface ou jouez sur le bord. Victor Hugo, 1802-1885. Le songe d'une nuit d'été, de Mendelssohn. Alors pendant très longtemps, rêver signifiait délirer, radoter, divaguer. Ça n'est qu'au 19e que le mot rêve va remplacer le mot songe dans le langage courant pour désigner donc l'activité du sommeil. Pour autant, et quel que soit le mot, très tôt on s'est intéressé à ses significations. Déjà, 2500 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens cherchaient dans les rêves un message annonciateur. Et au 2e siècle de notre ère, Artémidore de Daldis, dont je ne vous avais encore jamais parlé,
c'est vrai.
Il a écrit un livre très complet sur l'interprétation des rêves.
Livre que Louis Bonnat connaît par cœur.
Oh, mais bien sûr.
Alors Louis, je ne sais pas, mais pour Sigmund Freud, c'était une référence. Pour autant, les deux hommes avaient un point sur lequel ils n'étaient pas d'accord. Si pour le premier, les rêves annoncent l'avenir, eh bien pour l'inventeur de la psychanalyse, les rêves sont un accomplissement de nos désirs et éclairent plutôt notre passé.
Album en commun, ça, non ?
Exactement.
France Gall, Michel Berger.
France Gall. Alors, toutes les formes d'art s'inspirent du rêve. Dans Hamlet, Shakespeare voit le rêve comme une tentation de fuir la réalité. Mourir, dormir, rien de plus. Verlaine fait souvent ce rêve, étrange et pénétrant, d'une femme inconnue qu'il aime. Picasso peint sa jeune compagne Marie-Thérèse, paisible et assoupie sur un fauteuil, un sein dénudé. Et le cinéma n'est pas en reste. Michel Gondry a imaginé, à travers la science des rêves, comment compenser une vie calme par des rêves trépidants. Le rêve de Cassandre, c'est en fait le cauchemar éveillé, imaginé par Woody Allen pour Colin Farrell et Ewan McGregor. Enfin, dans Le Magicien d'Oz, les Munchkins et le grand magicien, ils n'étaient là que dans le rêve de Dorothy.
Bon, passons aux choses sérieuses. Le rêve, c'est aussi une source inépuisable pour les chanteurs et les chanteuses, Julien.
On y vient. Alors, par exemple, c'est un homme qui chante les rêves d'apesanteur et de voltige à plusieurs de Madame.
Madame rêve d'atomiseur et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur.
Magnifique Alain Bachung, mais c'est aussi Laurent Voulzy qui aimerait une autre vie, plus calme, plus douce, sur l'eau.
J'ai un rêve, le rêve que j'ai, tout le monde le fait. Je rêve d'eau,
en 75.
Mais d'océan, mais d'océan, un océan.
Ok, on va jusqu'au refrain.
Au-dessus des vivres de paix.
Non, on va pas pouvoir. En 75, la censure guettait le groupe Il était une fois, qui chantait tout haut ce que tout le monde vivait tout bas, ou presque. Parfois, quand on rêve trop fort, alors les draps s'en souviennent.
J'ai encore rêvé d'elle.
Pris la classe à Dallas, cette chanson. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent.
Oh, ça nous est bien arrivé, hein.
Bon, je prends pour vous.
Eh bien oui, moi oui.
Mon Dieu.
Rien, absolument rien. Ni les tempêtes, ni l'exil, ni les murs dressés, ni le temps qui presse, ni la météo de Louis qui pourtant arrive, n'empêcheront Thomas d'aller au bout de cette chanson de Jean-Jacques Goldman. J'ai retenu la leçon, je fais comme Cavrivière, je termine par du Goldman.
Oui, mais tu ne parles pas dessus, s'il te plaît.
Pas, Thomas, tout est plus fort.
C'était limite du blasphème.
Nous ferons courber la tête, plier les genoux sous le vent.
Là, il monte.
J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves.
Vous savez, quand nous écoutons à cette heure-là, vous avez de la musique et souvent j'irai du Goldman. Restez avec nous. Petit solo de saxo de Prof Pimpin pour accueillir Prof Baudin. On garde la musique, s'il vous plaît, Grégory Caranoni en régie.
Bon, d'accord. J'aimais
et
bien
on se parle de la
aussi.
Météo bon, de... Okay.